Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors notre émission de la semaine porte le titre amusant de pêle-mêle, un joli adverbe datant du début du XIIIe siècle. Figurez-vous qu'il a triomphé des anciens pêle-mêle et autres mêle-pêle, le P initial ayant progressivement remplacé le premier M dans l'expression mêle-mêle, tout simplement pour éviter la rencontre des deux M initiaux. Et pour commencer ce pêle-mêle, je vous propose un petit hommage à France Gall avec l'un de ses premiers titres paru en 1964, écrit pour les paroles par son père Robert Gall et pour la musique composée par Georges Lieferman.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle ?
De mathématiques,
que de travail,
sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie,
au lieu de nous ennuyer.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Participe passé. 4 et 4 font 8.
4 et 4 font 8.
Leçon de français. De mathématiques. Que de travail. Sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh.
Et oui, France Gall a raison. Charlemagne aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie au lieu de nous ennuyer avec la géographie. C'était bien sûr Sacré Charlemagne, une chanson composée par Georges Lieferman en 1964. Bon, alors bien sûr, Charlemagne n'est pas l'inventeur de l'école, ça existe depuis les Grecs, mais il a incontestablement renforcé le système d'instruction en veillant à mêler des élèves de conditions différentes. Le compositeur de cette chanson, Georges Lieferman, qui a composé des comédies musicales, des opérettes, des chansons pour Bourville, Dalida, Joe Dassin, Juliette Gréco ou Yves Montand, garde néanmoins un faible pour ce sacré Charlemagne, premier véritable tube dans la carrière de France Gall. Et puisque nous avons commencé ce pêle-mêle par un petit bond en arrière de quelques 50 ans et que nous sommes en quelque sorte dans les délices de la nostalgie, je suis sûr qu'un certain nombre d'auditeurs de France Inter sont capables d'appeler à leur mémoire le visuel du billet de 20 francs, le billet portant l'effigie de Claude Debussy. Oui, parce que c'est ce qui est un peu triste maintenant avec les euros. Nous n'aurons plus jamais de compositeurs classiques représentés sur les billets de banque. Vous me direz, il n'y en a jamais eu que deux, Claude Debussy et Hector Berlioz. C'est drôle, parce que de tous les compositeurs français, je pense que c'est ces deux-là qui ont eu le plus de problèmes d'argent dans leur vie. Alors, vous l'avez compris, je songe maintenant à célébrer dignement Claude Debussy. Et pourquoi pas vous faire entendre L'île joyeuse, cette magnifique pièce pour piano, une pièce solaire, une pièce roborative, une île joyeuse dont on a dit qu'il s'agissait de l'île de Jersey où Debussy séjournait amoureusement avec sa future seconde femme. Dialogue du vent et de la lumière, eau riante, jeu d'eau et éclaboussure, jeu du soleil et de la mer.
Thank you.
nous écoutions ce magnifique poème pour piano gorgé de lumière et d'énergie, L'île joyeuse de Claude Debussy, interprété par le jeune pianiste polonais Raphaël Bleszacz. Et nous continuons notre pêle-mêle avec un peu de tango argentin et aussi un peu d'accordéon, puisque voici Félicien Bru, l'un de nos chouchous, le digne successeur de Richard Galliano, dans un extrait de son album Soledad del Escualo, enregistré en trio avec la violoniste Nina Skopek et la pianiste Brigitte Coissard. Un irrésistible Michelangelo 70. C'était Michelangelo 70, un tango signé Astor Piazzolla par le trio Astoria, un extrait de leur album Soledad del Escualo. Et maintenant, pour continuer ce pêle-mêle, cap sur le XVIIe siècle, avec une pièce originale, singulière, du violoniste et compositeur Biagio Marini, un capriccio pour violon et théorbe qui me fait presque penser à la pièce Fratres pour violon et piano du compositeur Arvo Pärt, une pièce pourtant de 1977 que nous avions diffusée il y a de cela quelques émissions sous les doigts de Gidon Kremer et du pianiste Keith Jarrett. Alors notre capriccio n'est pas pour violon et piano, mais pour violon et théorbe, c'est le duo Ripico qui l'interprète, et vous allez voir, on a l'impression d'une sorte de liberté, comme si les interprètes improvisaient en quelque sorte la pièce devant nous, une atmosphère onirique et rêveuse. Nous écoutons donc le Capriccio de Biagio Marini par le duo Ripico.
Thank you.
Nous écoutions l'étonnant Caprice, Capriccio en italien, du violoniste et compositeur Biagio Marini, une pièce interprétée par le duo Repico, un extrait de leur album Assassinati, paru en 2017 aux éditions du Festival d'Ambronay. Alors, puisque nous voici côté baroque et que nous parlons des dernières parutions discographiques, voici une nouvelle version du Messie de Handel de notre ami Hervé Niquet et son concert spirituel, toujours aussi inspiré, toujours aussi musical. Alors certes, si je parle du Messie, vous vous attendez sans doute à entendre l'Alléluia. Mais oui, bien sûr, l'Alléluia, toujours l'Alléluia, encore l'Alléluia. Oui, mais qu'y a-t-il juste avant? Qu'entend-on dans le célèbre oratorio de Handel juste avant que n'éclate cet Alléluia? Eh bien, figurez-vous, beaucoup de colère. La fureur des violons, les vocalises de la basse, le vigoureux contrepoint du chœur, les exhortations du ténor. Pourquoi les nations se font-elles la guerre? Pourquoi les peuples imaginent-ils de vains complots? Le Seigneur les tournera en dérision et les mettra en pièces comme un vase de potier.
Oh. them to scorn. The Lord shall have them in derision. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Thou shalt break them. Thou shalt break them with a rod.
Colère et fureur divine, c'était un large extrait du Messie de Handel par le Concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Et je vous recommande particulièrement l'achat de ce livre-disque, agrémenté de nombreuses et spirituelles réflexions d'Hervé Niquet. C'est chez Aoutir. Alors dans la même période, nous sommes au début du XVIIIe siècle, côté français, le grand François Couperin compose ses célèbres Folies françaises pour clavecin. Alors bien sûr, tout est beau chez Couperin, moi je suis un fanatique de Couperin, j'aime toutes les pièces qu'il a composées pour le clavecin, mais je dois dire que j'ai une tendresse particulière pour ses Folies françaises. Alors les Folies françaises ou les dominos, c'est une suite de 12 portraits portant chacun un domino de couleurs différentes et qui représente en quelque sorte les différentes attitudes possibles avec le commerce de la chair. Vous en jugerez vous-même puisque nous allons maintenant écouter 4 de ces jolies petites pièces enchaînées, successivement la virginité sous le domino couleur d'invisible, la coquetterie sous différents dominos, la persévérance sous le domino gris de lin et l'ardeur sous le domino incarnat, l'incarnat étant une nuance du rouge, un rouge particulièrement clair et vif. Un traité des passions ou du Satie avant la lettre ? C'était la virginité, suivie de la coquetterie, suivie de la persévérance, suivie de l'ardeur. Quatre petites pièces enchaînées, quatre dominos ou folies françaises de François Couperin, délicatement interprétées par Aline Zilberach. Et maintenant, comme dans tout pêle-mêle qui se respecte, nous allons passer du coq à l'âne, nous allons contraster avec un scherzo signé Shostakovich et datant du début de la Seconde Guerre mondiale de 1939, très exactement. Il s'agit du second mouvement de sa sixième symphonie, une musique très étonnante, une musique aigre-douce, printanière et angoissée tout à la fois, de l'humour certes, mais un humour sarcastique voire sardonique, tour à tour malicieux et grandiose.
Thank you.
Quelle étonnante musique, n'est-ce pas ? Mêlant le trivial et le noble, le léger et le lourd, les détails d'orchestration subtile avec la grosse machine orchestrale, le tout relié par une irrésistible énergie, c'était le scherzo, le second mouvement de la 6e symphonie de Shostakovich par l'Estonian Festival Orchestra sous la direction de Paavo Järvi. Et maintenant, la perle rare. Avez-vous déjà entendu parler de la marquise Hélène de Montgeroux ? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, c'était une des plus grandes musiciennes de son temps. Née en 1764, morte en 1836, elle est considérée en France comme la plus grande pianiste de son temps. Compositeur également et improvisatrice de génie. Alors vous imaginez bien, en tant qu'improvisateur, que j'ai particulièrement de l'affection pour cette Hélène de Montgeroux. Et d'ailleurs, elle a une conception très particulière de l'improvisation. Pour elle, l'improvisation est intimement liée à la manière dont les auditeurs l'écoutent. Tenez, je la cite. L'improvisation est pour moi une conversation animée. Je ne me laisse point astreindre à tel ou tel sujet. Je m'abandonne à l'impression que produit sur moi l'intérêt de ceux qui m'écoutent. Et c'est à mes amis que je dois surtout en ce genre la plus grande partie de mon talent. Alors voici donc Hélène de Montgeroux, femme de caractère, marquise, compositeur à la vie étonnante, l'une des meilleures pianistes de son temps, professeure de piano au conservatoire, improvisatrice, qui se retrouve en 1793 devant les membres du comité de salut public. Heureusement, le directeur du Conservatoire de Paris intercède en sa faveur en déclarant que son établissement ne pourrait se passer du plus grand professeur de piano de l'époque. Impressionné, le président ordonne alors d'ouvrir la porte du tribunal à deux battants et que l'on fasse entrer le piano de la pièce voisine. Et de déclarer à Hélène de Montgeroux « Citoyenne, on nous assure que le Conservatoire de Paris ne peut se passer de toi et de ton talent. Assieds-toi là et joue-nous donc la Marseillaise. » Hélène de Montgeroux s'exécute, se met au piano, commence par jouer timidement l'hymne national, puis se laisse aller à des variations improvisées de plus en plus virtuoses, et à la fin de ces variations improvisées, voici que le président et ses collègues se lèvent et chantent l'hymne national. Hélène de Montgeroux vient de sauver sa tête. Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire entendre un enregistrement de ces fameuses variations improvisées sur la Marseillaise, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre la jeune pianiste Edna Stern qui vient d'enregistrer sur un piano d'époque un certain nombre d'œuvres d'Hélène de Montgeroux, dont le final de cette 9e sonate, une œuvre à la fois romantique, haletante et passionnée.
Thank you.
Nous écoutions Edna Stern interpréter sur un grand piano pléiel le final de la 9e sonate en fa dièse mineur d'Hélène de Montgeroux. Si vous vous intéressez à la vie trépidante de cette extravagante marquise, je ne saurais trop vous conseiller l'excellent ouvrage de Jérôme Dorival sur cette grande musicienne, ouvrage intitulé « La marquise et la marseillaise » paru récemment aux éditions Symétrie. Mais pendant que la Révolution bouleverse toutes les structures sociales en France, du côté de l'Allemagne et de l'Autriche, on continue à écrire des menuets. Alors certes, on ne les danse plus, mais les compositeurs classiques continuent d'écrire des menuets. Comme par exemple le jeune Schubert qui, à l'âge de 18 ans, fait du troisième mouvement de sa deuxième symphonie un menuet, mais un menuet tellement rapide qu'il est impossible à danser. Le menuet n'est plus une danse, il est devenu une forme. Alors nous allons l'écouter maintenant. Il est en trois parties, premier menuet en mineur, deuxième menuet en majeur et la reprise du premier menuet en mineur. Si vous tendez bien l'oreille, vous remarquerez qu'il s'agit du même thème dans les deux menuets, mais passant du majeur au mineur. Un contraste d'expression particulièrement savoureux. C'était le menuet de la deuxième symphonie de Schubert par l'Orchestre symphonique d'Anvers sous la direction de Philippe Hervègue, un extrait de son récent album consacré aux deuxième et cinquième symphonies du maître viennois. Et je n'oublie pas que cette semaine, dans la preuve par Z, nous pratiquons le pêle-mêle et que j'ai donc un devoir de contraste. C'est pourquoi nous allons passer de la Vienne de Schubert à l'Inde. Enfin, l'Inde. L'Inde vue par les Français. L'Inde au moment où l'orientalisme français bat son plein. Je pense à l'opéra L'Acmé de Delhi, dont l'action se déroule en Inde. L'Acmé étant la fille d'un grand prêtre brahmane. Alors L'Acmé, ça a été un très grand succès lors de la création de l'ouvrage à Paris en 1883 et tout de suite un tube est né, la célèbre Barcarolle, le duo des fleurs, délicieux comme une crème à la vanille. Les Brigitte n'ont rien inventé du côté du duo féminin. Voici donc L'Acmé déclarant à son ami « Viens Malika, les lianes en fleurs jettent déjà leur ombre sous le ruisseau sacré qui coule calme et sombre, éveillé par le chant des oiseaux tapageurs. »
Chant des oiseaux tapageurs.
C'étaient les merveilleuses voix enlacées de Sabine de Vielle et Marianne Crébassa, accompagnées par l'Orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, pour ce célèbre duo des fleurs de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes, un extrait de l'album Mirage. Alors bien sûr, malgré la beauté de cette musique, on est bien d'accord que l'Inde de Léo Delibes n'a rien à voir avec la véritable Inde. C'est une Inde de pacotille. Et c'est pourquoi cela m'a donné envie de terminer notre preuve par Z hebdomadaire par un petit peu de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les musiques du monde. Alors qu'est-ce que c'est les musiques du monde? Eh bien de temps en temps, c'est tout simplement le fait d'aller enregistrer sur place des musiques traditionnelles de certains pays qu'on ne connaît pas encore très bien ici en France ou en Occident. Mais petit à petit, c'est aussi devenu un champ de créativité, un champ de composition qui permet d'inventer de nouvelles sonorités, de nouveaux rythmes, de nouvelles mélodies. Et il y a maintenant tout un domaine que l'on classe faute de mieux dans les musiques du monde, mais que l'on devrait bien plutôt appeler composition utilisant certains éléments des musiques du monde. Tenez, je vous propose d'écouter maintenant un extrait du magnifique album Souffle du Monde, un album imaginé par le grand flûtiste Henri Tournier. Henri Tournier a d'abord commencé par faire de la flûte classique, puis il s'est intéressé à la musique de l'Inde, et il est aujourd'hui au conservatoire professeur d'improvisation modale et de musique indienne. Dans son album Souffle du Monde, il a eu l'idée d'inviter un chanteur d'un pays différent pour chaque plage et de le mélanger à ses improvisations à différentes flûtes. Je vous propose d'écouter maintenant la plage Karaburan où Henri Tournier se retrouve à accompagner aux flûtes octobasse et alto Epi, le célèbre Epi, qui chante, qui joue du Mörinhur. Le Mörinhur, c'est une sorte de vielle à archet à tête de cheval de Mongolie, qui a la particularité d'avoir non seulement l'archet, mais également les cordes en crin de chevaux. Et vous allez retrouver les rythmes typiques, les rythmes de galop des musiques mongoles. Epi qui chante en même temps qu'il s'accompagne. Et puis le tout avec le souffle d'Henri Tournier. J'espère que vous allez apprécier maintenant cette découverte.
Ding da 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 da
Une musique mystérieuse, énigmatique, colorée, c'était Karabourane, une pièce en duo pour flûte, octobas et alto, jouée par Henri Tournier, et la voix tellement énigmatique, grave, profonde, d'épis, s'accompagnant à sa vielle à roue mongole, c'était un extrait de l'album Souffle du Monde, avec lequel nous terminons notre pêle-mêle hebdomadaire. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Sègre. Chef opérateur du son, Philippe Mercher. À la semaine prochaine.